affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Académie. Aujourd'hui, nous allons nous promener dans les architectures imaginaires d'un graveur italien. Piranèse est l'un des plus grands artistes du XVIIIe siècle. Il a laissé sur le papier des monuments d'encre et de lumière. La bibliothèque Mazarine et la bibliothèque de l'Institut de France lui consacrent actuellement une exposition. On y voit des ruines somptueuses, des perspectives inattendues, des escaliers qui ne mènent nulle part, et des prisons saturées de noir, ce génie tourmenté parvient toujours à nous saisir par sa puissance poétique et ses effets dramatiques. Nous allons donc entrer dans son univers en croisant deux regards, celui de Johan Braul, qui assure le commissariat de cette exposition, et celui d'un graveur contemporain, Éric Desmazières, membre de l'Académie des Beaux-Arts. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Nous allons commencer avec vous, Éric Desmazières. Quelle place occupe, selon vous, Piranèse dans l'histoire de l'art ?
Dans l'histoire de l'art, c'est quand même un artiste singulier, dans le sens où son œuvre, qui est la plus connue, Les Prisons, par laquelle il s'est fait connaître d'abord, est une œuvre assez en décalage avec ce qui se faisait à l'époque. Enfin, on est au milieu du XVIIIe siècle, et quand on voit la peinture ou l'art français du milieu du XVIIIe siècle, c'est pas du tout, entre guillemets, piranésien, quoi. C'est quelqu'un qui, quelque part, annonce le romantisme, on va dire, même si ça n'était pas un artiste isolé, puisqu'il vient... D'abord, il était architecte, hein. il se réclame toujours. Il a très peu construit, hein, ou pratiquement pas. Je crois qu'il a construit quelque chose à voir avec l'ordre de Malte.
Une église
de l'ordre de Malte, ouais, à Rome. Mais il a quand même... Ça vient du monde de la scénographie, enfin ça vient du monde du décor de théâtre, d'opéra, de gens comme Juvara, Bibbiena, qui étaient italiens, qui étaient ses contemporains. Donc il a quand même une place dans ce cheminement-là, et il a aussi une place dans la gravure, dans l'histoire de la gravure qui ne coïncide pas toujours avec l'histoire de l'art en général, parce qu'il y a quand même une histoire de la gravure qui est assez liée à l'histoire des techniques de la gravure aussi, il faut dire. Encore qu'il ne soit pas... Peut-être pas un novateur, sauf que Les Prisons, pour revenir à elles, sont quand même une œuvre où il y a une liberté, disons, de facture qui est quand même très, très particulière et très, très inattendue.
Est-ce que vous pouvez les décrire, ces prisons ?
Alors, c'est une suite, je crois qu'il y a 16 planches. Il y a deux états, hein, c'est-à-dire qu'il a réalisé ces 16 planches très jeunes, qui sont vraiment des prisons carceri d'invenzione, des prisons imaginaires. C'est vraiment comme des décors, hein, sauf que... Alors, il y en a qui sont horizontales, je ne sais pas combien sont horizontales et combien sont verticales, mais on peut considérer que celles qui sont horizontales sont plus décors de théâtre réalistes que les autres. Mais ce sont des vues absolument fantaisistes. C'est vraiment un coup de génie, hein, c'est quelque chose comme ça qu'il a dû faire très vite. D'ailleurs, on sent une furie dans la façon de travailler. D'ailleurs, elles sont... Les premiers états sont assez clairs, enfin, c'est pas un énorme travail quantitatif, hein, et c'est des années et des années après que, revoyant cette série, il a jugé utile de complètement la dramatiser, en faire quelque chose de beaucoup plus obscur, de beaucoup plus nocturne. Et donc, c'est la description d'un monde carcéral, infini, très, très complexe, avec des instruments de torture, des poulies, des corps, des petits personnages, des escaliers, des grilles. Un monde éclairé, comme ça, avec plusieurs sources lumineuses. Enfin, un monde très, très fantasmagorique et très, très impressionnant pour ce qui est du rendu de l'espace, mais qui est... très spécifique dans son œuvre, car Piranèse est quand même un homme qui a une œuvre gigantesque, qui n'a pas dû faire seul d'ailleurs, parce que personne ne peut avoir une œuvre pareille, aussi importante. Il n'est pas mort très vieux pourtant, mais il avait un atelier, il a eu beaucoup de succès. Et puis surtout, c'est un peu, les prisons sont un peu les seules de son espèce dans l'œuvre, parce que sinon c'est plutôt très maîtrisé, très calme, très ordonné, très réaliste. Parfois, c'est presque de l'ordre du trompe-l'œil, même, pour des objets qu'il décrit, comme ça. Et c'était d'ailleurs... C'était un merveilleux graveur et un très, très bon dessinateur. C'est un dessinateur hors pair. Les dessins de Piranesi sont encore plus recherchés que ces gravures.
Alors justement, Johan Vrou, d'où vient ce Piranesi et comment s'est-il formé ?
Alors en fait, un peu en contrepoint de ce que nous dit Eric, on peut dire que Piranesi n'est pas le fruit d'une génération spontanée. Eric l'a mentionné un peu, en fait sa tradition à côté de justement du décor du théâtre, c'est avant tout le vidutisme italien. Donc là, ça nous ramène exactement dans sa patrie, c'est-à-dire Venise, qui est le lieu par excellence du vidutisme au XVIIIe siècle, même si en fait c'est un genre qui est hérité d'une tradition légèrement antérieure de l'école hollandaise et donc qui est représenté à Venise, évidemment par Canaletto, qui donne ses lettres d'or à ce genre, avec peut-être la dernière grande figure du siècle, Guardi. Et autre, j'allais dire ancêtre, peut-être pas, parce que c'est une génération avant, en fait, c'est Panini, qui en fait est le premier artiste, je crois, à rapprocher donc ce vidutisme. Je ne l'ai pas dit, mais ce sont des vues relativement réalistes des villes. C'est des premiers panoramas urbains. Et Panini, lui, inscrit cette tradition du vidutisme dans les vues mi-imaginaires, mi-réelles des ruines. Et donc Piranesi est un peu à la croisée de ces chemins, de cette tradition. Et surtout, sur le plan familial, c'est quelqu'un qui est déjà marqué par la bâtisse, puisque lorsqu'il est né en 1720, donc tout près de Trévise, donc qui est une possession de Venise, il est donc le fils d'un tailleur de pierre qui touche un petit peu à l'entreprise. Piranesi, on le sait, va se former, comme c'est la tradition, auprès de son père, puis va être confié à son oncle maternel, Matteo Lucchesi, qui est ingénieur auprès de la République de Venise, qui s'occupe de l'entretien donc, des ouvrages d'art et des canaux. Donc il a à peu près 15 ans, on le sait, son caractère est déjà assez bien formé, assez fort. Il ne s'entend pas très bien avec son oncle Matteo. Et il part se former chez un autre architecte, Giovanni Antonio Scalfarotto, en fait, qui est plus très connu aujourd'hui, mais que les amateurs les amoureux de Venise connaissent bien ou sans le savoir. C'est son œuvre, à mon sens, la plus marquante, la plus personnelle, et celle que l'on découvre lorsqu'on sort de Santa Lucia, la station ferroviaire. Et donc, sur le Grand Canal, vous avez cette merveilleuse église qui vous fait face. San Simeone Piccolo, avec son dôme un peu oblong, et qui va être donc le deuxième ou le troisième maître, si on compte le père de Piranesi, de sa formation. Donc on voit une formation d'architecte, Eric l'a dit, il signe pendant très longtemps ses planches architecte vénitien, il tient également à sa patrie. Et on sait qu'à 20 ans, à l'âge de 20 ans, il part comme dessinateur dans l'ambassade de Marco Foscarini, ambassadeur de la Sérénissime à Rome. Et il va travailler auprès des frères Valeriani, qui donc sont des décorateurs de théâtre. Alors là encore, de l'architecture au décor de théâtre, il n'y a qu'un pas, surtout lorsqu'on a été un peu formé à la perspective. Et puis de ces décorateurs de théâtre, eh bien, il va passer dans l'atelier de Giuseppe Vasi, qui est le grand graveur d'origine sicilienne, mais établi à Rome depuis le milieu des années 1730, et qui est le grand spécialiste en fait dès Védouté. Il fait toute sa carrière et, justement à Rome, et il publie énormément de ses vues de Rome, et il va lui enseigner l'eau forte, la technique de l'eau forte.
Alors Éric Desmazères, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette technique de l'eau forte? De quoi s'agit-il exactement?
Alors l'eau forte, c'est une technique qui a été inventée tout à fait au début du XVIe, qui consiste donc à utiliser un acide. Ce n'est pas l'artiste qui creuse lui-même, c'est l'acide qui creuse. Après que l'artiste est dessiné avec une pointe d'acier sur une plaque soit de cuivre, soit d'étain, qui a été recouverte d'un vernis qui le protège, donc on dessine avec cette pointe qui enlève le vernis, ensuite on plonge dans un acide qui attaque le métal où il a été découvert, et qui donc l'attaque plus ou moins profondément suivant le temps qu'on laisse la plaque dans l'acide. Il y a plusieurs sortes d'acides, je ne vais pas entrer dans les détails, hein, le perchlore de fer, l'acide nitrique, ce qu'on appelait le mordant hollandais, je ne sais pas ce qu'utilisait Piranès, mais il est très frappant quand on voit ses gravures, qui maîtrisait parfaitement cet aspect des choses, dans le sens où on voit des différences de morsure très... très importante. Il y a des choses, même dans les prisons d'ailleurs, à ses débuts, il y a des choses très peu mordues, très légères, et des choses très profondes. Alors probablement, on voit ça d'ailleurs sur les planches de l'encyclopédie, parce que les techniques de l'estampe sont décrites dans l'encyclopédie d'Diderot et d'Alembert, et on voit des planches de l'encyclopédie où on mettait les plaques de gravure vernies et travaillées comme ça sur des plans inclinés sur lesquels des gens avec des brocs versaient l'acide qui coulait, puis on l'a récupéré, puis on en remettait. Alors ça, ce qui fait qu'il n'y avait pas de... On ne fait plus ça maintenant, il faudrait des gens qui feraient plus de main d'œuvre. Alors c'est fini. Et donc maintenant on met ça à plat, hein, dans un bac, et puis on attend que ça monte. Tandis que là, il y avait une action beaucoup plus active. Enfin, on voit, c'est très bien décrit dans l'encyclopédie. Et donc il est certain que Piranès utilisait cette méthode, et on voit des différences de morsure qu'on aurait beaucoup de mal à atteindre maintenant. Enfin, on voit qu'il a une technique, mais c'est une technique assez simple, hein, parce que bon, voilà. Là, on met cette plaque plus ou moins longtemps dans l'acide et on la retire plus ou moins vite pour avoir des traits plus ou moins épais. Donc c'est une technique relativement simple.
Et c'est vous, votre technique?
Alors oui, c'est une technique que j'ai apprise. Je crois bien que j'avais commencé à faire de la gravure quand j'ai rencontré Piranès tout à fait par hasard, par un livre dans une librairie, une librairie qui était dans une galerie qui s'appelle Fournier, qui est une galerie qui existe toujours, qui n'est pas du tout une galerie de gravure ancienne, qui est une galerie vraiment d'art très contemporain, mais il y avait des livres d'art, et je tombe sur un catalogue de Piranès qui était assez complet, qui était une exposition à Bologne, il me semble, mais vraiment des petites reproductions, et alors j'ai vraiment eu un choc. Alors effectivement, il y a la perspective joue un très grand rôle, la lumière, c'est vraiment une lumière dramatique, et puis il y a un sens de l'espace extraordinaire, c'est à la fois un sens de l'espace, un sens de la composition, un sens du détail aussi, et puis il n'y a aucune maladresse, et tout est absolument maîtrisé, merveilleusement maîtrisé. Donc j'ai découvert ça quand je commençais à faire de la gravure dans des cours du soir de la ville de Paris, qui étaient des cours ouverts aux adultes, hein, qui étaient des cours libres. Et j'étais allé là parce que je faisais des dessins. Je ne connaissais rien à la gravure, hein, vraiment. Mais je faisais des dessins à la plume. Et un jour, quelqu'un m'a dit « Ah, ça ressemble à des gravures, tu devrais peut-être... » Alors je suis allé à ce cours. Un professeur m'a demandé de lui apporter un dossier. Ce monsieur n'était pas du tout... il s'appelait Jean Delpech. Et alors lui, c'était un buriniste. Vraiment quelqu'un qui est un très bon artiste, d'ailleurs, mais qui n'a pas fait vraiment une carrière commerciale, qui avait eu le prix de Rome en 1948, et il faisait des burins assez délicats, mais il était, il ne forçait pas du tout les élèves à faire ce que lui savait faire. Il avait vu que je faisais plutôt des choses libres, et il me dit « Ah, mais vous, ce qu'il faut faire, c'est de l'eau forte, allez, on va prendre un petit cuivre, on va le vernir ». Alors il m'a expliqué ça vraiment en une demi-heure, hein. Bon, il faut que la plaque soit propre, pour qu'elle soit propre, on met un mélange de blanc d'Espagne et de vinaigre d'alcool, vous attendez que ça sèche, vous mettez votre vernis avec un pinceau brosse, vous attendez que ça sèche, ensuite vous travaillez avec votre pointe, et puis vous trempez ça dans l'acide. On va commencer par mettre une demi-heure, et puis vous allez voir, ça va être horrible. Votre premier essai, effectivement, c'était horrible. Mais j'ai assez aimé le côté, comment dire, alors vous dessinez sur ce cuivre, qui est donc sombre, vous voyez votre dessin clair, vous le mettez dans l'acide, vous enlevez le vernis ensuite, et vous avez le dessin sur le cuivre, et puis vous l'ancrez. Ça consiste à mettre de l'encre dans le creux et puis ensuite à essuyer pour qu'il n'y en ait que dans le creux et vous imprimez. Il y a quand même une magie de... Il y a une métamorphose parce que ça n'est pas exactement ce que vous voyez quand vous travaillez, quoi. Donc quand on voit l'épreuve qui sort de la presse, il y a quand même quelque chose de très fascinant et ça m'a tout de suite plu. Alors,
et
donc,
Pyrénèse
voilà.
A continué à vous accompagner.
Parce que c'était d'abord un univers qui était... D'abord, j'ai fait un petit peu d'études d'architecture et puis... Comme lui, c'est présomptueux, mais disons, j'ai préféré l'architecture rêvée à l'architecture réelle, on va dire. Et donc, en cela, je me sens une familiarité avec lui. Et puis, c'est une œuvre, parce qu'il y a les prisons, il y a les vues de Rome, il y a les ruines, il y a les temples de Paestum, il y a les descriptions d'objets de l'Antiquité, il y a ce que disait Johann, c'est-à-dire tout ce qui concerne la construction, les blocs de pierre avec les appareils de levage, les crochets qui permettaient les appareillages, etc. Il y a tout ce côté, il y a comme ça tout un monde très... Il y a des chapitres comme ça, c'est cette œuvre immense, hein, qui est, ça m'a beaucoup fasciné. Et je vous le dis, parce que c'est un peu à part, le dessinateur est merveilleux aussi. C'est un dessinateur très rapide, très bon observateur des personnages, par exemple. C'est un très bon dessinateur. Alors, on ne lui connaît pas de portrait, on ne lui connaît pas de... Mais on connaît des scènes comme ça, on connaît des... Toujours avec une encre brune, et d'ailleurs, c'est très, très recherché. J'ai fait des séries comme ça, un peu. J'avais fait une série des passages parisiens qui était un peu un hommage à Pyrénèse. Enfin, c'est différent, hein, parce que d'abord... J'étais beaucoup, beaucoup plus lent que lui. Et puis, j'en ai pas fait 16. J'aime ce côté de grande série. J'ai fait une autre série qui illustrait Borges, la bibliothèque de Revel, qui est aussi un monde un peu pyrénéen. Puis, des bibliothèques qui sont... Encore que Pyrénèse n'ait pas fait tellement de bibliothèques, hein, que je sache. C'est pas tout à fait... Il n'a pas fait ça. Voilà, mais j'ai jamais oublié Pyrénèse.
D'ailleurs, on peut voir certaines... de vos œuvres dans cette exposition en dialogue. Johann Bro, Éric Desmazières parlait des personnages de Pyrénèse dans ses dessins, mais on les retrouve dans ses gravures minuscules. Quel rôle joue-t-il ?
Alors,
échelle.
Oui, voilà, probablement d'un point de vue à la fois pratique et mensonger. Pratique pour effectivement donner l'échelle et mensonger justement pour tricher sur les proportions. C'est-à-dire que Pyrénèse est toujours relativement juste, hein, je le disais, dans le souci qu'il a de représenter la matérialité de la construction dans les proportions, ce qui est évidemment, ça serait un crime de lèse-majesté, hein, pour un architecte, surtout pour cette période-ci, de donner des proportions fausses aux ordres. Mais en revanche, il les diminue toujours beaucoup par rapport à l'édifice, hein, de ce qui donne justement des disproportions de l'édifice qui sont toujours très marquantes, qui donnent cette impression de monumentalité. Et surtout, alors là c'est un regard peut-être plus personnel, ces personnages sont représentés... Alors ça dépend encore une fois à la fois des séries, hein, parce que quand vous regardez les vues de Rome, on est vraiment là, comme Eric le disait, dans une représentation très, très soignée, très élégante. On retrouve également dans les personnages qui habitent ces vues un souci de la... De la joliesse,
on
a
des
beaux carrosses,
de la splendeur de Rome, voilà, aussi dans les gens qui y habitent.
Exactement, des femmes aussi qui font la beauté par leurs vêtements, par leur mise, qui font la beauté de l'architecture, qui entrent en résonance avec la beauté du paysage. En revanche, dans ces représentations des antiquités, là, on n'a pas du tout la même population. On a des personnages qui sont représentés déjà dans la manière beaucoup plus frustre, des personnages un peu désarticulés qui sont mi-humains, mi-végétaux, Il y a quelque chose de très, très étonnant en fait, dans ces représentations, et surtout cette impression par la disproportion justement des édifices représentés, cette idée qu'on a en fait une population qui peut-être est celle d'aujourd'hui, celle que Piranès perçoit, qui ne serait plus tout à fait à la hauteur de ces constructions laissées par les anciens, et qui du coup là donnerait une disproportion non seulement de volume d'édifices, mais aussi de civilisation. C'est-à-dire que ces ruines, hein, même à l'état de ruines, continuent d'écraser et d'imposer sur une population un petit peu dégénérée qui serait la nôtre.
Quelle est sa vision justement de cette civilisation romaine qui le fascine ?
Alors c'est vraiment le champion de la civilisation romaine. Hein. Très clairement, on sait que il y a une petite polémique qui s'est élevée entre justement ceux qui, un peu comme Winckelmann ou encore Mariette, Caylus, qui s'interrogeaient en fait sur l'origine de cette architecture classique et qui ont tourné leur regard vers la Grèce. Je pense là encore à Julien David Leroy. Et là où Piranès, dans ses écrits, est vraiment, vraiment un turiféraire en disant non, l'architecture grecque, oui, elle est peut-être un peu antérieure, mais elle est capricieuse, et puis elle manque quand même de grandeur, et puis les Romains, c'est quand même un peuple d'ingénieurs. Donc c'est vraiment un champion de la civilisation romaine contre ce tropisme grec qu'on avait en France et qu'on a eu de plus en plus, hein, puisque dans ces années 1760, on est c'est le moment où commence à triompher à Paris le goût à la grecque, hein, qui s'oppose un peu justement à ce goût romain.
C'est l'époque où on découvre Pompéi aussi.
Alors oui. Disons que ça a été aussi l'intérêt, l'avantage du parcours de Piranès. On sait que dans la toute fin des années 1740, il se rend à Naples, et on imagine très bien qu'il a assisté à ses premiers objets, sculptures, ses premiers fondements d'édifices qu'on apercevait. On sait d'ailleurs qu'il a été aussi à sa manière antichomane, hein, antiquaire, dans les doubles sens du terme, hein, à la fois comme expert et savant de l'Antiquité. Ça, c'est pour le sens que l'on donne à l'époque moderne. Antiquaire dans le sens actuel, c'est-à-dire faisant le commerce des œuvres d'art. On sait qu'il avait sa propre collection, qu'il commerçait beaucoup, notamment avec les Anglais. Et ses fils ont continué d'ailleurs avec la cour de Suède, hein, parce qu'ils ont alimenté de manière assez, assez considérable les collections royales de Suède.
On voit d'ailleurs une petite pièce dans l'exposition. Alors nous avons parlé de proportion et de disproportion. De quelle façon traite-t-il aussi les perspectives et peut-être les cadrages, comme on pourrait le dire d'une façon très contemporaine, et Éric Desmazières, par rapport au monument, en fait, comment les aborde-t-il ?
Alors, d'une manière un peu expressionniste, je dirais, c'est-à-dire qu'il y a toujours des perspectives très franches. Je pense à ces palais romains qu'il a représentés comme ça, avec des angles très aigus, avec des ombres très marquées. Mais c'est des perspectives très assez réalistes, il faut bien dire, mais très, très franches. Enfin, oui. Quant au cadrage, alors il faudra avoir les images sous les yeux pour en faire un commentaire, mais il y a beaucoup de sortes de cadrages, parce qu'il a fait beaucoup de détails, par exemple. Hein, mais sinon, c'est des vues... il n'a pas inventé quand même la perspective curviligne, mais disons, il a quand même des mises en page très, très franches. Enfin, il y a une espèce de sensation de plénitude, quand même. On est très... Moi, j'ai quelques gravures de Piranès, comme ça, et on ne se lance pas. Il faut dire que c'est un homme, alors c'est un autre sujet qui a eu une fortune, on va dire, après sa mort. Enfin, ça a été ça continue à être apprécié. Enfin, ça a été d'ailleurs très collectionné. Alors, c'est une œuvre qui est très abondante, hein. C'est pas rarissime, hein. C'est un homme qui a eu beaucoup de succès. Johann connaît beaucoup mieux que moi le détail de sa vie. Je pense qu'il y avait un atelier où travaillait du monde, on produisait beaucoup de gravures, ce qui d'ailleurs est étonnant, parce que le cuivre, comment dire, ça s'use, hein. On peut pas tirer des centaines de cuivres sans qu'il y ait quand même une diminution de la qualité. Or, les gravures de Piranès sont toujours de très belle qualité en général. C'est toujours très très contrasté, etc. On n'a pas le sentiment d'une usure, alors qu'il a été. Vous savez, les plaques sont venues en France, les fils sont imprimés. Il y a eu des éditions en France, en Angleterre. Il n'y a pas une maison aristocratique dans laquelle les couloirs soient pas remplis de Piranès. Il faut voir le musée Soane à Londres, qui est rempli de dessins d'ailleurs de Piranès. Ça faisait aussi partie, j'imagine, du grand tour, c'est-à-dire que les Anglais qui venaient à Rome repartaient avec leurs Piranès. Peut-être pas les prisons, parce que les prisons, quand même, plus rare. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus recherché, quand même. Mais ces grands albums des vues de Rome, des ruines de Paestum, etc., ça a été une diffusion internationale, enfin. Et voilà. Et toujours dans cette mise en place, qui est assez classique, mais c'est vrai, très expressive.
Avec des effets dramatiques, des effets spectaculaires.
C'est très, très dramatique, un noir et blanc très franc, très. Oui, qui est vraiment très satisfaisant, alors pour l'œil d'ailleurs, oui, qui annonce le romantisme, incontestablement. Oui.
Johann Braun, lors d'une visite, vous disiez par exemple que c'était comme des coups de projecteur au cinéma.
Absolument, c'est comme une lumière artificielle, c'est vrai, oui.
Oui, on voit vraiment encore une fois le bénéfice qu'il a tiré à la fois de ses leçons de perspective et de décorateur de théâtre.
Et de la scénographie.
C'est-à-dire que
vous avez des de théâtre.
Exactement. Oui,
il a théâtralisé, on peut dire, Rome, enfin, et les ruines romaines.
Vous avez parfois des vues, notamment il y a un motif qui revient beaucoup chez Piranès et qu'on retrouve d'ailleurs dans une gravure d'Éric Desmaizières, qui est la vue sous l'arche, ou les vues de pont, qui en fait permettent, en voyant comme sous l'arche d'un pont, un peu comme un arc de Seine, et qui donne peut-être comme une petite lunette en fait, qui permet de découvrir un morceau de ville. Comme une scène ouvre sous un arc de théâtre, en fait. C'est vraiment des formules qui fonctionnent très bien, hein, qui donnent toute l'intensité à la scène représentée, qui l'emprunte directement au monde du théâtre.
Il y a d'autres emprunts au monde du théâtre ?
J'en suis pas sûr.
Non, je vois pas non plus.
Non, j'en suis pas sûr.
Ça reste un décorateur, réellement. Ça reste un décorateur. Il faudrait pas faire de Piranès un littéraire, par exemple. On ne doute pas que ça a été un visionnaire, quelqu'un qui avait un esprit et un art qui étaient extrêmement habités, mais habités par les formes, je trouve.
Et pourtant, justement, les écrivains vont adoré Piranès, et les artistes également. Il connaîtra, vous l'avez dit, une formidable postérité. Qu'est-ce que on va commencer peut-être par les artistes, qu'est-ce qu'ils vont retenir de l'œuvre de Piranès? Quelles images vont s'imposer dans notre culture visuelle européenne, pourrait-on dire? Éric Desmaizières.
Est-ce que des gens comme Escher, par exemple, on peut considérer qu'ils sont des héritiers de Piranès? Est-ce qu'au théâtre, est-ce qu'au cinéma, il y a des héritiers de Piranès? Est-ce que Cécile B2000, c'est un héritier de Piranès? Plutôt, non, Cécile B2000 serait plutôt un héritier de John Martin, qui est un peu piranésien, d'ailleurs, qui est un artiste anglais, qui a fait des manières noires, c'est une autre technique, mais qui a fait aussi des architectures fantastiques, incroyables, des villes englouties, enfin, et qui aussi est dans le gigantisme et l'infini, comme ça.
Et des effets dramatiques. Et des effets dramatiques. Tout à fait surprenant.
Alors qui a fait de la peinture. Piranès, que je sache, n'a pas fait de peinture, mais John Martin en a fait, ou comment s'appelle cet artiste anglais aussi qui a représenté les différentes étapes de la civilisation. Là, je ne me souviens plus. Il y avait le début, puis l'apogée, puis la décadence, et puis la ruine. Et il y a un peu ça chez Piranès. Mais est-ce qu'il a vraiment eu beaucoup, beaucoup d'héritiers il y a eu toute cette période qui était... C'est contemporain, hein, comme dont on... Il y a eu une exposition à Rome en 1979 qui s'appelait Piranèse et les Français à la Villa Médicis, où il y avait comme ça tout ce courant représenté, les Jacques Laurent Leger, les Châles, les Victor Louis. Enfin, avant, il y a aussi quelqu'un qui a été un très grand dessinateur de ruines, mais pas graveur, c'est Hubert Aubert. C'est aussi ce monde, mais c'est plus... Il n'y a pas chez Hubert Aubert les prisons de Piranèse. Hein. Il n'y a pas de choses... Enfin, si, il y a la vision imaginaire de la galerie du Louvre en ruine, mais c'est un peu... Enfin, c'est un peu le même esprit, mais c'est quand même moins fantastique que né Piranèse, quoi. Qui est vraiment un artiste assez unique, quand même. Par la puissance de création, par l'abondance, par la main, enfin. Il paraît qu'il avait très mauvais caractère, mais ça n'empêche pas.
Alors je vois Johan Bro qui fait un signe de tête affirmatif.
Oui, j'acquiesce. Alors, je n'ai pas connu Piranèse, évidemment. On a assez peu de témoignages directs. Ouais.
C'est très étonnant, parce que ça a été un homme très célèbre, mais on sait très peu de choses de lui.
Oui, oui, oui. En fait, on a pour source, hein, vraiment un témoignage alors auquel on revient toujours, celui qui est donné par Le Grand, l'architecte et l'historien d'architecture, qui avait connu Piranèse, qui était très ami avec les fils de Piranèse, et qui, dans le cadre d'un projet de réédition de ces planches que l'on aurait complétées, qui datent vraiment des toutes premières années du 19e siècle, avait écrit une notice qui devait servir d'introduction à ce qui devait être un peu une sorte d'encyclopédie de l'architecture. Et cette notice, alors qui est un peu une hagiographie, hein, puisque c'est encore une fois, ça devait servir d'introduction à ce grand œuvre, on perçoit au détour d'une phrase, on parle de Le Grand par d'un caractère tumultueux, y compris avec ses enfants, un manque de patience, un cerveau toujours en feu. Et voilà, à côté de ce, en marge de ce témoignage, là me vient à l'esprit une lettre de William Chambers, donc célèbre architecte anglais, qui en 1778 conseillait à son élève Johnson de se rendre en Italie, de mettre de côté ses préjugés, qu'il qualifie de préjugés nationaux. Et il lui dit surtout, allez voir Piranèse de ma part. C'est un esprit un peu fantasque, il a des conclusions parfois un peu absurdes, c'est un caractère un peu dur. Mais dans sa volubilité, vous trouverez toujours énormément de renseignements sur la culture romaine, sur l'architecture antique. Donc on sent quand même, malgré le peu de témoignages que l'on a, un caractère pas des plus accommodants, mais un esprit libre. Très probablement.
Oui, probablement, oui, un esprit...
Un esprit libre, quelqu'un quand même d'extrêmement entreprenant. On a quand même... Alors, Eric l'a dit, ça j'appuie, il n'était pas seul hein, pour ce travail, mais c'est quand même un
œuvre... rien de l'organisation de l'atelier, mais c'est sûr que c'était toute une organisation. Il devait y avoir des gens qui imprimaient, des gens qui préparaient les plaques. Cela dit, quand on voit les planches... La main est toujours très sûre, il y a toujours une très grande qualité graphique. Alors, est-ce que c'est lui qui a tout gravé? Je ne sais pas, mais les ciels, etc. Il y a peut-être des gens, il y a peut-être des très...
Des spécialités,
bons...
peut-être. Oui. On sait
comme il y avait pour la peinture, hein, tous ces ateliers romains.
Ce qui est une organisation qui est habituelle. Hein. L'importance de l'atelier est toujours mésestimée. On sait par ailleurs que c'est les enfants gravaient, y compris sa fille, la fille aînée, qui a signé quelques planches.
Et du côté des écrivains, sa postérité a été peut-être encore plus importante. On peut penser au roman gothique, on peut penser à Théophile Gautier. Où le retrouve-t-on ?
Alors, c'est peut-être le caractère le plus inattendu, en fait, lorsqu'on pense à Piranèse. Bien évidemment, tout de suite, on a un kaléidoscope d'images, de références qui nous vient en tête. Moins de littérature, c'est vrai. Mais lorsqu'on fait un peu cette archéologie de la culture européenne, et notamment de la place que l'architecture et l'image de la ruine occupent dans cette culture européenne, on s'aperçoit que les liens très forts dès les années 1760 que Piranèse entretient avec le milieu anglais va permettre une promotion assez large, en fait, de son œuvre à Londres. Par une forme de percolation, en fait, on voit très rapidement dans le roman gothique anglais, justement, je pense là à Horace Walpole qui exhorte les artistes à se frotter au rêve sublime de Piranèse. Eh bien, on voit dans la littérature, et notamment dans le Château d'Otrante, hein, qui est le premier roman gothique de Walpole, cette place que cette architecture piranésienne, faite pleine de drames, de contrastes, de gigantisme, d'inquiétude, de passages dérobés, bien on voit l'influence, en fait, les projections que ces auteurs, en fait, par l'intermédiaire des planches de Piranèse, vont faire sur l'architecture, qui souvent est un peu le personnage muet, hein, de ces romans. Et on va avoir donc une tradition comme ça de ces châteaux qui se répandent en galeries, en endroits obscurs, jusqu'en plein romantisme, hein, dans les années 1820. Et là, un événement assez amusant, hein, c'est-à-dire à la suite de la publication des confessions d'un mangeur d'opium par Thomas de Quincey, où cette fois-ci il n'est plus question vraiment ce ressort habituel du château gothico-piranésien. Cette fois-ci, de Quincey utilise notamment les prisons pour donner une forme de projection, d'image de ce qui se produit dans le cerveau d'un homme sous l'influence de la drogue. Et cet ouvrage-là va trouver une audience particulière en France et va être traduit très rapidement par quelqu'un qui n'a pas encore donné grand-chose en littérature et qui est pourtant promis à de grandes choses, c'est le jeune Alfred de Musset. Et de là, Piranèse va servir un peu de bâton de relais de Musset à Nodier, qui va voir dans les prisons, alors non plus les rêves d'un opiomane, mais cette fois-ci qui va établir une sorte de lien entre ces gravures de Piranèse et le mythe de Sisyphe, en fait, où il s'imagine, il voit toujours dans les prisons ces escaliers qui n'en finissent pas et qui reprennent, et avec un Piranèse qu'il imagine monter en haut d'un escalier, puis arriver sur un plateau, voir un autre escalier, remonter encore et encore. Donc on a ce drame de la répétition, hein, qui est une autre forme de la prison piranésienne aussi. Et pour finir avec vraiment de manière tout à fait éclatante et assez saisissante, le relais passe à Théophile Gautier, où Théophile Gautier, en fait, on voit à quel point il a ce filtre piranésien dans sa manière d'aborder à la fois, évidemment, ses expériences du club des Hachichins, où il compare, là encore, un escalier où il, après avoir fumé un peu trop, il compare à une gravure de Piranèse, mais il voit également dans ses descriptions de l'Espagne ou même de Berne, ce qui est tout à fait étonnant, Il compare donc ces morceaux de ville ou d'architecture à des gravures de Piranèse, et notamment des prisons. Donc une sorte de motif un peu obsessionnel que l'on trouve par héritage dans toute cette littérature romantique.
Et il y a une autre plume beaucoup plus contemporaine qui a aimé se tremper aussi dans l'encre de Piranèse, c'est Marguerite Yourcenar. Je crois, Éric Desmazères, que c'est un texte...
Oui, mais alors, je l'ai lu il y a tellement longtemps. Je me souviens du titre, c'est « Le cerveau noir de Piranèse », mais alors vraiment, je ne saurais pas vous en dire plus ce soir, là, vraiment. C'est, ouais. Mais peut-être Johan a une mémoire plus fraîche de ce texte que j'avais beaucoup aimé, mais je n'ose pas vous dire combien de temps, je l'ai lu, il y a peut-être 40
c'est effectivement, le titre est une expression qu'elle emprunte à Victor Hugo. Ouais. Et elle revient justement, Marguerite Yourcenar, elle revient sur, c'est un peu la boucle qui est bouclée, elle revient sur le texte de Thomas de Quincey, où elle fait effectivement, elle revient sur le parallèle en fait entre les visions que les hommes de lettres ont pu plaquer sur ces planches de Piranèse. Et le rapport au temps, évidemment, qui est pour Marguerite Yourcenar quelque chose de fondamental.
Alors, Éric Desmazères, certaines de vos œuvres sont dans l'exposition. Comment ont-elles été choisies ? Est-ce que cela vous a poussé à poser un nouveau regard sur votre propre travail ?
Il faut demander ça au commissaire. Non, mais... Oui, c'est-à-dire ce sont justement des planches qui sont issues de séries assez piranésiennes, mais pas seulement, hein, parce que disons que mon panthéon se compose, il y a Piranèse, il y a aussi Borges. D'ailleurs, Borges a sûrement parlé de Piranèse, ça ne me vient pas à l'esprit à l'instant, mais je ne peux pas imaginer que Borges ne se soit pas penché sur Piranèse. Il y a Kafka aussi, il y a Jules Verne, on va dire, tous ces gens qui ont décrit des mondes, sinon cauchemardesques, du moins infinis, comme ça. Donc les planches qui sont exposées là sont des planches de série. Mais alors, plutôt, alors, ce qui est la Bibliothèque de Babel, c'est un texte de Borges que j'ai illustré, qui est un texte, un très beau texte, très court, et absolument pas descriptif. Alors c'était amusant de l'illustrer, parce qu'on était assez libre, sauf qu'il y a un élément, le chiffre 6, je ne me souviens plus comment ça commence, le monde est une bibliothèque, ça commence comme ça, et tout est avec, alors qui est composé de 6 côtés, avec 6 portes. Alors j'ai utilisé ce chiffre 6 pour créer des images qui ne sont pas décrites par Borges, mais comme il ne décrit rien, sinon que c'est infini, infini dans le temps. D'ailleurs, il dit aussi que la bibliothèque existe depuis toujours, existera toujours, que les bibliothécaires se reproduisent et vivent dans cette bibliothèque comme ça, ad vitam aeternam. Donc il y a ces quelques planches de la Bibliothèque de Babel qui sont exposées. Il y a un autre univers très piranésien que j'avais eu l'occasion de décrire et qui est réel. Hein. C'est ce qu'on appelle le magasin central des imprimés de la Bibliothèque nationale. Il y a la salle dans l'ancienne bibliothèque de la rue de Richelieu. Il y a la salle Labrouste, hein, construite par la grande salle de lecture. Et derrière cette salle, il y avait, parce que ça a beaucoup changé, ce qu'on appelle le magasin central des imprimés, où étaient conservés les imprimés, qui était un lieu immense, qui avait, je crois, 6 ou 7 niveaux du temps de Labrouste, et qui avait été agrandi vers le bas, vers le haut, notamment par un très bon architecte qui s'appelle Michel Rouspitz, qui est un architecte des années 30-40. Et donc c'était devenu un lieu, et on m'a demandé de faire des gravures. Enfin, Sylvie Aubenin, qui est toujours la directrice du département des estampes et de la photographie, m'avait demandé de décrire cet endroit entre le moment où tous les livres avaient été déménagés dans la nouvelle bibliothèque de Tolbiac, et avant le début des travaux, qui ont quand même beaucoup modifié ce lieu dans le sens où, quand j'ai fait ces dessins, puis ces gravures, c'était comme une espèce de puits avec une lumière naturelle, avec une espèce de grande salle centrale autour duquel couraient des coursives, etc., avec une très très belle sensation de lumière et d'infini, parce qu'il y avait toutes ces galeries qui partaient, avec des escaliers aussi, là, beaucoup d'escaliers, des ascenseurs aussi, et puis des passerelles. Et tout ça avec une lumière naturelle un peu blafarde, parce que bon, on imagine bien que toutes les carreaux de verre étaient très sales au sommet. Mais maintenant, tout cet espace a complètement été modifié, dans le sens où, pour des raisons de sécurité, tout ça a été cloisonné dans le sens de, il n'y a plus ce puits de lumière que c'était, et c'était un très bel espace dans lequel j'ai pu dessiner au moment où c'était en souffrance entre le déménagement des livres et le début des travaux, qui ne sont toujours pas finis d'ailleurs. C'est la Bibliothèque nationale n'a pas encore réouvert dans son entièreté. Et puis les passages. Alors ça, c'était vraiment comme un hommage à Piranès plus explicite, c'est-à-dire que tout ça vient du fait que j'avais un ami qui était antiquaire dans la galerie Vérododa, qui est un de ces passages couverts. Vous savez, les passages couverts à Paris, c'est une typologie architecturale qui date des années 1800, à partir de 1820, on va dire, mais qui s'est étalée un peu dans le temps, qui sont donc des galeries couvertes, des galeries marchandes, comme ça. Il y en a un peu autant que de prisons de Piranès, d'ailleurs. Il faudrait vérifier, mais c'est pas tout à fait loin de correspondre. Alors du coup, ça m'a donné l'envie, car il y a un côté infini, dans le sens où ce sont donc des galeries couvertes, avec beaucoup de réflexions. Il y a des vitrines avec du verre, et ça se reflète, et il y a des verrières, et il y a souvent des sols très lisses. Donc il y a aussi cette idée d'infini. Et je me suis amusé à faire une espèce de projet d'agrandissement de ces passages, d'une partie, parce que ça a été assez laborieux, j'en ai fait 8 sur 16, peut-être qu'un jour je ferai la deuxième série, mais donc c'était vraiment un hommage explicite à Piranès de refaire. Alors je gardais le style, parce qu'elles sont très... Ces galeries ont chacune leur typologie, leur style. La galerie Vérododa est une des plus belles, des plus ornées, mais il y a la galerie Vivien, il y a le passage Verdot, il y a le passage des panoramas, il y a comme ça, et ça s'étale un peu dans le temps. Hein. Et donc je me suis amusé à faire des projets d'agrandissement de ces passages. D'ailleurs, j'avais évoqué ça à l'inauguration de l'exposition. Il y avait eu, je crois, la mairie du premier arrondissement, si je me souviens bien, une exposition de la suite. Et mon ami antiquaire de la galerie Vérododa avait vu un jour une dame arriver en disant « C'est effrayant, il y a un projet d'agrandissement du passage, les architectes sont vraiment fous, il faut empêcher ça, c'est horrible. » Voilà. Mais c'était une fois de plus qu'un rêve de papier. Voilà. Alors c'était... Cette suite des passages est vraiment, on peut dire, un hommage à Piranès, tout comme effectivement cette suite du magasin central des imprimés, qui était un lieu très 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 piranésien, alors, mais très kafkaïen aussi. Et un peu Jules Vernien, car il y a, alors ça nous éloigne de Piranès, dans la restauration ça a été gardé, il y avait dans le magasin central des imprimés, un système extraordinaire d'envoi des commandes de livres par un système pneumatique, alors qu'il faisait plus Jules Verne, alors pour le coup. Voilà. Il y a d'ailleurs un film qui est très piranésien, c'est le magnifique film d'Alain René qui s'appelle
Toute la mémoire du monde,
qui date de 1960, qui est un film en noir et blanc qui décrit la Bibliothèque nationale. Je crois que c'est l'histoire d'un livre qui arrive pour le dépôt légal et qu'on voit comme ça, étape par étape, jusqu'à ce qu'il soit étiqueté et rangé sur une étagère. Et ce film est vraiment piranésien. Ça dure une demi-heure peut-être, mais c'est vraiment la description d'un monde qui est tout à fait en harmonie avec ce monde des prisons.
Et peut-être pour conclure, Johan Bro, vous accueillez le public qui vient visiter cette... exposition, et Piranès parle toujours, notamment aux étudiants en architecture.
Oui, ça a été vraiment une excellente surprise pour moi, puisque voilà, si on fait des expositions, c'est pour qu'elles soient vues, et notamment qu'elles participent autant que possible à l'éveil et à l'éducation. Et j'étais frappé de voir à quel point, chez les jeunes, et effectivement notamment chez les architectes, dès l'annonce de l'ouverture de cette exposition, on a eu beaucoup de classes ou de professeurs qui se sont présentés spontanément pour être reçus, guidés. Et j'ai vu avec plaisir sur place... Que ces élèves se laissaient guider avec émotion, avec intérêt, que certains sortaient leur bloc-notes, faisaient quelques petits croquis ici et là, et ça a été vraiment une vraie satisfaction. L'autre satisfaction, c'est de voir
le public dans la salle de lecture de la bibliothèque de l'Institut où je travaille, regarder ces planches. Alors autant les planches d'Éric Desmazières ou Albert de Caris, dont on n'a pas parlé, oui, qui est aussi un graveur, un membre de la section de gravure de l'Académie des Beaux-Arts, qui a été très, visiblement, très marqué par les mises en page de Piranesi. Alors peut-être, j'ai le sentiment, peut-être de manière moins intime qu'Éric Desmazières, c'est-à-dire qu'il a été... Il a saisi vraiment toute la... la mise en page, c'était...
La monumentalité.
Oui,
il a attaqué des formats très grands, et puis aussi une description de Paris, comme Piranesi a pu décrire Rome. Enfin,
oui, c'est-à-dire, et un remarquable vedutiste. Oui. Et effectivement, on peut mettre comparer en fait la dimension des planches de Caris, qui n'hésitait pas à s'atteler à de grands cuivres, un peu dans la manière de Piranesi, à avoir des angles de vue un peu dramatiques, un peu surprenants, de jouer lui aussi avec, de faire naître la lumière de l'ombre, comme le faisait si bien Piranesi. Et voilà, donc de voir ce public regarder ces héritages piranésiens et ces planches de Piranesi avec délice, en tout cas c'est l'impression que j'ai.
Eh bien, chers auditeurs, nous vous invitons, vous aussi, à vous rendre à la fois dans la bibliothèque Mazarine, qui se prolonge par la bibliothèque de l'Institut. Et il faut le dire, c'est très rare qu'elle soit ouverte de cette façon au grand public.
C'est la première fois.
Et donc, ça donne d'ailleurs une vision assez piranésienne du lieu.
Fait, ouais.
On voit cette enfilade de ces deux bibliothèques comme ça qui se suivent avec un décalage, et avec un décalage à la fois de l'angle, hein, horizontal et vertical. C'est très piranésien.
Et les œuvres sont donc accrochées sur les rayonnages de ces bibliothèques. Donc c'est vraiment très, très beau à voir, et pour l'ambiance et pour les œuvres. Donc c'est Piranesi et son empreinte, un rêve de pierre et d'encre. Une exposition qui se tient jusqu'au 14 mai 2022, qui est ouverte au public du lundi au samedi, avec une entrée libre de 10h à 18h. Vous êtes vraiment les bienvenus. Merci Éric Desmazières et merci Johan Brault.
Merci.
Merci beaucoup. Thank you.